Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, dans ce programme de Radio Okapi dédié aux jeunes et plus jeunes, le magazine Bana Okapi. Aujourd'hui, mercredi 20 novembre 2024, nous célébrons le 35e anniversaire de la signature de la Conférence internationale de droits de l'enfant. En ce jour, l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, célèbre les progrès réalisés pour chaque enfant, quel qu'il soit, jouisse pleinement de ses droits. Le magazine Bana Okapi fait une tournée dans quelques provinces de la RDC pour nous donner un aperçu de ce que le respect des droits des enfants dans le pays. Nous parlerons donc des avancées, des défis, mais surtout de souhaits des enfants en ce jour du 20 novembre 2024. Merci de votre aimable attention à ce magazine financé par l'UNICEF pour les jeunes et plus jeunes. Sarah Sombel est à la présentation de ce magazine, mise en onde de Billy Landry-Beto, une réalisation de Gisèle Cage, sous la supervision de Jean-Marc Omotokimo, Félélé Dijano. Nous lançons ce magazine.
Alexandre,
Bienvenue, chers auditeurs, auditrices et internautes. Votre magazine Bana Okapi de ce jour célèbre la Journée internationale des droits des enfants. En République démocratique du Congo, où le thème de cette année portera sur les enfants acteurs dans la lutte contre le changement climatique et la dégradation de l'environnement, le bien-être des enfants est affecté par des inondations, des pics de chaleur. Les détails de la situation en RDC sont à découvrir avec Blaise Makassi.
Ce rapport de l'UNICEF intitulé « La situation des enfants dans le monde, l'avenir dans un monde en mutation » examine la manière dont trois forces puissantes observées à l'échelle mondiale affecteront la vie des enfants d'ici aux années 2050 et au-delà. Ces grandes tendances, à savoir les changements démographiques, la crise climatique et environnementale et les technologies d'avant-garde fournissent des indications clés sur les défis et les possibilités qui attendent les enfants dans le monde de demain. En République démocratique du Congo, l'UNICEF note que l'environnement est un enjeu majeur pour le futur des enfants. Ces dernières années, notent les communiqués de l'UNICEF, plusieurs villes de la RDC ont connu des problèmes d'inondation et des pics de chaleur. Ces situations ont affecté les enfants et ont eu un impact sur leur bien-être. La création d'un dialogue constructif entre les deux générations, les adultes décideurs d'aujourd'hui et les enfants futurs décideurs, permettra de donner la parole aux enfants et aux jeunes comme acteurs dans la lutte contre le changement climatique.
Toto yambimba, elebusepela, sambu na bana nyoso.
Beto bana yanti Congo, elomba na bampumu tina bibuti nyoso, lusadisu sambu beto kuyela mbote. Beto bana yanti Congo, ezola ve kuzinga na balabala. Beto zola pipe kuzimba minduki, bonto bana nyoso ya kele kuzinga na est.
Annoncé, votre magazine vous emmène à Bounia, où Ezekiel Mouzalia nous parle de la situation des droits des enfants dans le chef-lieu de la province de l'Ituri. Dans cette province, la protection des droits des enfants reste encore un défi majeur à cause de l'insécurité causée par les groupes armés. Des milliers d'enfants sont privés de leurs droits, dont celui de l'éducation. La plupart d'entre eux mènent une vie de misère dans la rue. D'autres, confrontés aux difficultés pour la survie, se livrent à la toxicomanie et à la consommation de boissons fortement alcoolisé. Un tableau sombre que dresse le comité provincial des enfants de l'Ituri qui demande au gouvernement de garantir leurs droits. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Des milliers d'enfants traversent en général des situations très critiques en raison des conflits armés qui perdurent depuis plusieurs décennies dans la province de l'Ituri. Leurs droits par exemple à l'éducation, aux soins, au logement et autres sont violés au mépris des textes et chartes qui régissent les droits des enfants au pays et au monde entier. Selon les acteurs de la société civile locale dans le territoire des Djougou, nombreux vivent dans des conditions misérables dans les sites, comme le confirme Mugisa Héritier, secrétaire du site des déplacés d'Euro, qui héberge au moins 70 000 personnes.
À cause des conflits, il y a certains enfants qui ne vont pas à l'école, là, qui sont quand même chômés dans les sites, qui sont autour de 500 enfants. Sur 31 927 enfants dans les sites ici. Il y a certains des enfants qui sont des enfants orphelins et puis qui ne sont pas pris en charge par certains membres de la famille et puis qui ont du mal à bien rester ici dans les camps. Les enfants qui ne savent pas aller à l'école, là, sont trop souvent allés les trouver autour des canons de la MONUSCO. Et puis, il y a des enfants-là qui se livrent même au vol dans les sites. C'est à ce terme-là que les règles droits on n'est pas respecté.
Même décor dans le territoire de Mambasa, où plusieurs enfants sont enrôlés des forces dans des groupes armés. Ils sont utilisés comme bagagistes, porteurs d'armes, ou soit des butins, espions et autres tâches exigées par le leader des mouvements rebelles. Selon la nouvelle société civile locale, d'autres se livrent à l'exploitation des minerais pour leur survie suite à la vulnérabilité de leurs parents. Son coordonnateur, Jospin Mboa.
Les enfants sont aussi enrôlés dans des groupes armés. Ça, c'est l'une des violations graves des droits de l'homme qui est permanente dans les territoires de Mambasa. Et aussi, les manques d'éducation pour certains enfants qui sont touchés par la guerre. Là, nous voyons les déplacés de guerre. La plupart d'entre eux n'étudient pas suite aux moyens, manque de moyens par leurs parents. Nous le constatons seulement lorsque il y a, par exemple, des incursions rebelles qui se font et après, on prend en otage aussi des enfants. Ces enfants-là, on leur fait porter des armes. Les jours où il y aura peut-être des opérations militaires sur les groupes armés, dans ces occasions pareilles, on peut aussi appréhender des enfants parmi les porteurs d'armes. Et c'est là-bas que l'on peut compter que non, il y a au moins autant d'enfants.
Des activistes des droits des enfants en Ituri indiquent que les droits des milliers d'enfants sont bafoués, surtout dans les sites. Ils passent la nuit dehors sur les devantures des boutiques et maisons des commerces au marché central dans la ville. Délice Wamsonia, encadreur des structures des enfants, indique qu'à ces jours, 8 enfants sur 10 néjouissent de tous leurs droits dans cette province confrontée aux défis sécuritaires et économiques.
Le problème de droit de l'enfant reste un défi majeur à cause de la guerre, à cause de l'insécurité. La plupart d'enfants ne bénéficient pas de leurs droits. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui dans la rue, il y en a beaucoup qui sont dans les sites de déplacés. Tout ça, c'est parce que la province n'est pas stable. La province, elle est à guerre, la province n'est pas stable. Et cette situation répercute négativement sur le droit des enfants. Déjà, moi, je peux dire que 8 sur 10 enfants ne bénéficient pas de leurs droits. Parce qu'une fois, on a été dans les sites, il y a au moins presque 1500 parcs et qui ne sont pas en train d'étudier et qui vivent dans des conditions très difficiles.
Dans un point de presse tenu ce mercredi à Bounia, le comité provincial du Parlement des enfants en Ituri s'est dit profondément choqué des multiples cas de violations graves des droits des enfants, lesquels ont été recensés l'année dernière par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et qui restent encore impunis. Richardine Pitoua demande aux autorités de rétablir la situation situation sécuritaire en province et punir les auteurs de ces abus.
Plus de 1000 violations graves des droits des enfants recensées par l'UNICEF en 2023 restent impunies, sans omettre de faire mention d'innombrables cas d'impunité des avortements, des grossesses précoces, d'abus sexuels, d'exploitation sexuelle ou économique des enfants, devenus monnaie courante en ville de Bounia et en province de l'Ituri. Le chef d'application des droits de l'enfant demeure très moindre. Nous formulons les recommandations ci-après. Aux autorités et parents, mettre l'enfant garçon et fille de l'Ituri au centre de tout ce qui le concerne, prendre en compte l'opinion et prendre l'idée de l'enfant pour son épanouissement, assurer et rétablir les droits fondamentaux des enfants en situation difficile pendant cette période de conflits armés.
Plus d'un million 600 000 personnes vivent en déplacement dans environ 68 sites de déplacés que compte l'Ituri d'après différents rapports des humanitaires. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Que vive le 20 novembre, en ce jour où le monde célèbre la journée internationale des droits de l'enfant. Mon souhait est que tous les enfants de la RDC vivent pleinement leurs droits et qu'aucun enfant ne se retrouve dans les mines, victime de la guerre.
Vous êtes bel et bien à l'écoute de la fréquence de la paix Radio Okapi. Après Bounia, rendons-nous à Bukavu dans le sud Kivu. Plusieurs enfants s'adonnent au travail pour leur survie et celle de leur famille. C'est leur contre la loi portant protection des droits des enfants, constat fait par le Parlement d'enfance zone est au sud Kivu. Cette situation est bien pire qu'elle ne le paraît. Des études menées ici et là au sud Kivu démontrent combien le travail des enfants est un fléau à combattre. Dans les territoires de Mwenga, au moins 5000 enfants sont exposés dans les activités minières. Au territoire de Kalehe, 52% des enfants exercent des travaux dangereux dans la zone de santé des Kalehe et 20% dans la zone de santé des Minova. Rachel Kessimbango nous en parle dans ce reportage.
Coulage de béton, commerce ambulant, nettoyage de véhicules et bien d'autres travaux lourds, ce sont là les types des travaux auxquels s'adonnent les enfants dans la ville de Bukavu. Bienvenue Kayenga, représentant du Parlement des enfants du Sud Kivu.
Le problème des pires formes de travail est réel à Bukavu. La loi portant protection de l'enfant interdit formellement le travail des enfants dans les mines, dans le supermarché, dans les chantiers. Mais c'est avec un regret que nous constatons que les enfants sont utilisés dans ces endroits là-bas. Le Parlement d'enfants est en action dans la lutte contre ces pires formes de travail chez les enfants au sud Kivu.
Certains estiment que ces enfants n'ont pas d'autre choix et que c'est pour leur survie qu'ils s'adonnent au travail. Comment comprendre cela? Ernest Chikwanine, psychologue éducateur d'enfants.
Aujourd'hui, tout le monde lutte pour la vie. Donc, les enfants n'ont pas le choix. Et aussi doivent survivre et ils exploitent leurs efforts là où ils peuvent décrocher un 500 francs, un 200 francs même, ils n'hésitent pas de faire ce travail-là. C'est interdit par la loi. Mais c'est la vie dure qui fait que ces enfants-là descendent en ville pour chercher de petits travaux à faire, afin de rentrer à la maison avec un petit rien. Des fois même, ce sont ces petits-enfants-là qui nourrissent les familles. Donc c'est un problème que le pays devait prendre à cœur, hein. Le pays devait s'occuper de tous ces cas-là. Quand un enfant de 10 ans, de 11 ans, doit porter un poids de 25-30 kilos, ça peut provoquer certaines maladies, ça peut détruire certains organes chez l'enfant.
Dans le territoire de Mwenga, au moins 5000 enfants sont exploités dans les activités minières. Cela ressort d'une étude menée par Caritas Développement Ouvira qui s'insurge contre l'exploitation des enfants dans les sites miniers et plaide pour leur protection. Hilaire Isombia, président du cadre de concertation de la société civile de Mwenga.
Nous avons été dans 27 sites. Nous avons constaté qu'il y a plus de 5000 enfants qui sont utilisés dans les activités minières en territoire de Mwenga. Le problème n'est pas seulement à Mwenga, c'est dans d'autres territoires de la province de Kivu. Les enfants souffrent malgré l'existence de l'arsenal juridique que regorge la République démocratique du Congo. Il ne s'observe pas un changement au niveau du terrain. Nous sommes représentés par les gens que nous avions élus et qui ont le mandat de vouloir interpeller le gouvernement à faire appliquer les textes.
Quant au territoire de Kalehe, 52% des enfants exercent des travaux dangereux dans la zone de santé de Kalehe et 20% dans la zone de santé de Minova. Des résultats d'une étude menée en 2022 par l'Institut National des Statistiques, INS Sud Kivu, sur la situation des enfants dans les zones minières artisanales. Et ce, afin de cerner la problématique de la privation de droits des enfants. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Nous sommes de retour et heureux de vous retrouver pour la deuxième partie du magazine Bana Okapi du jour spécial 20 novembre, journée internationale des droits des enfants. Le magazine Bana Okapi du jour célèbre ce jour par une tournée de province relevant les avancées, le défi et les abus dont sont victimes les enfants congolais. Restez avec nous et ensemble, nous allons célébrer cette journée avec les enfants et nos experts qui nous proposent des pistes de solutions pour faire respecter les droits des enfants. Sarah Soumbela est à la présentation de ce magazine mise en onde de Billy Londre et Beto, une réalisation de Gisèle Cage sous la supervision de Jean-Marc Omatokimo Felele Dijano. Ce magazine est coproduit par Plamidim Biavanga, Grâce Onvezolo, Rachel Kessé, Ezekiel Mouzalia, André Kitenge, Jeff Opela, Grévis Salumu, Etienne Lissumbu, Guylaine Kassassia et Stanislas Diomi. Nous lançons cette seconde partie.
Lelo le 20 novembre 2024, Mokili, Iso Sekela, Mapoki Abiso Bana. Osinga nanga Eza ete biso nyonso bana ya RDC, Ebika Mapoki wa biso na Limenia pe na Kinya nyonso. Mwana mokoti ya RDC toza na posa ya kumona na esika ya Bitumba pe na Balabala. Bakondi botale ya biso bana esika na biso ezali place ya ete. Merci.
À Kinshasa, tout comme dans les autres grandes villes de la RDC, les droits de l'enfant ne sont pas totalement respectés hormis quelques avancées déjà acquises. Les enfants de Kinshasa vivent encore quelques abus, que ce soit en famille, à l'école ou dans les rues. C'est dans cette ville que l'on retrouve le phénomène enfants de la rue, enfants conduisant des aveugles, des enfants vendeurs ambulants et bien d'autres formes de violations de droits de l'enfant. Jeff Opela nous fait le point dans ce reportage.
La loi du 10 janvier 2009 portant protection des droits de l'enfant visant à garantir à l'enfant, disons toute personne ayant moins de 18 ans, le droit de bénéficier des différentes mesures à caractère administratif, social, judiciaire, éducatif, sanitaire et autres visant à les protéger de toute forme d'abandon, de négligence, d'exploitation et d'atteinte physique, morale, psychique et sexuelle. Envie de garantir l'épanouissement intégral de sa personnalité et de les protéger à ses responsabilités citoyennes. Renforcer les responsabilités des parents, de la famille et de l'ensemble de la communauté à garder l'enfant, et pourtant plusieurs enfants et parents sont du même avis. Les droits des enfants ne sont pas totalement respectés. Pour cet élève en fin des cycles des humanités, la délinquance juvénile est l'une des causes du non-respect des droits de l'enfant. Sa montée ces derniers temps traduit l'état mental des enfants, victimes de plusieurs abus de la part des adultes. Miradi Machango.
La majorité des droits de l'enfant ne sont pas respectés. Déjà, nous remarquons que la délinquance juvénile est de plus en plus forte dans la ville de Kinshasa. Et la majorité des enfants ne vont pas à l'école, n'ont pas droit à l'eau, à l'éducation et autres. Et la protection de l'enfant aussi, j'aimerais parler de ça. Si nous voyons, nous sommes sur les réseaux sociaux, les enfants ne sont pas protégés, il y a des images, il y a tout ce qui se passe là. Et je trouve que vraiment la jeunesse de la République démocratique du Congo n'est pas vraiment protégée face à tous ces dérapages et autres. Ça serait mieux que l'État crée des centres pour accueillir des enfants ayant des malformations, des handicaps et autres, au lieu qu'ils puissent se balader dans la rue, demander de l'aide. L'État puisse créer un centre. Après, les ONG pourront faire des dons et des gens de bonne foi. Ça serait mieux au lieu de les laisser dans la rue. Bon, je demanderai aux parents d'être responsables déjà, avant de concevoir un enfant, on doit s'assurer que nous-mêmes, on est formés et assurer son éducation. Donc, on ne peut pas faire des enfants sans pourtant avoir la capacité ou de les envoyer à l'école, par exemple, de la capacité de les envoyer à l'hôpital en cas d'urgence et favoriser aussi les activités des jeunes et autres et donner les jeunes d'espace, de montrer leurs talents aussi. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Mes droits sont respectés à la maison, mes respects, j'ai droit à donner mon opinion et autres.
Par ailleurs, Cédric Tubangou, professeur à l'école, là maintenant, se pense que les droits ne sont pas respectés en général, car comparativement à un schéma parallèle en électricité, si une ampoule ne s'allume pas, les conséquences se répercutent sur les autres.
Le droit des enfants à Kinshasa, je peux dire que c'est respecté et n'est pas respecté. Ça peut être respecté par certains parents qui sont responsables, qui reconnaissent et qui savent des d'abord leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis des enfants et que ces derniers respectent cela. Mais il y a aussi des cas exceptionnels, entre autres celui qui ne peut ne pas avoir de moyens consistants qui peuvent faire en sorte à ce que le droit de l'enfant puisse être respecté. Entre autres, les parents se retrouvent dans l'impossibilité et l'incapacité de prendre en charge l'instruction de son enfant. Ces parents-là, automatiquement, c'est indépendamment de sa volonté que ses droits ne puissent pas être respectés. Comme nous vivons dans un pays qui, pour que l'enfant puisse bien étudier, il faut que les parents puissent prendre en charge les études des enfants. Alors ce dernier qui n'a pas de moyens, il n'arrivera pas à payer les frais scolaires pour son enfant. Donc, quand un des droits n'est pas respecté, étant un schéma ou bien un montage en parallèle, cela ne va plus être respecté. Dans le montage en parallèle, quand une lampe n'est pas allumée, donc la suite des lampes ne seront pas allumées. Donc, le droit de l'enfant, c'est toute une chaîne. Tous ces droits doivent être respectés. Quand un des droits n'est pas respecté, automatiquement, la suite n'est pas logique et les droits ne sont pas respectés.
Enfin, Angeli, nous avons rencontré un assistant social, Dorion Voima, qui plaide pour le respect des droits des enfants et leur souhaite une excellente célébration de la journée des droits des enfants.
Chers auditeurs, auditrices et internautes, en ce 20 novembre, votre magazine Bano Okapi célèbre la journée internationale des droits des enfants. Place à présent à nos invités. Monsieur Justin Matete est coordonnateur de l'ONG Forum de paix de Béni. À l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant, célébrée chaque 20 novembre, il nous parle de principaux droits de l'enfant. Selon cet activiste de droits de l'enfant, malgré l'insécurité persistante dans la région de Béni, l'enfant conserve des droits fondamentaux, notamment l'égalité, l'identité, la protection et l'éducation. Justin Matete nous en dit plus dans cet entretien avec André Kitenge.
Justin Matete, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Le 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Quel est l'état des lieux des droits de l'enfant aujourd'hui à Béni dans un contexte d'insécurité et de guerre?
Merci pour la question et l'opportunité. Les enfants, de plus en plus, sont en train de subir les conséquences que nous, les adultes, nous sommes en train de leur infliger. C'est-à-dire, ce sont les faits que nous nous causons, nous adultes, et qui entraînent à ce que les enfants en subissent, justement parce qu'ils n'ont pas de moyens de défense. Je commence par la dimension d'abord des contextes de la zone. C'est-à-dire, on a là d'un côté l'aspect sécuritaire, de l'autre l'économie. Vous voyez un peu, il y a des chevauchements entre les deux secteurs. Et du coup, lorsqu'il y a insécurité, eh bien, on se retrouve devant plusieurs facettes. C'est-à-dire, ceux qui causent l'insécurité, parfois, ils passent par les enfants parce que, bon, voilà, les enfants sont faciles à manipuler et que sais-je encore. Et du coup, ils se retrouvent aussi en face des conflits avec la loi et ça entraîne tout ce que ça entraîne. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, il y a cet aspect économique dont j'ai évoqué ici haut. c'est que les enfants, il y a aussi des catégories, c'est-à-dire ceux qui fréquentent ou alors ils vont à l'école, bon, ils ont cette chance l'avant-midi de ne pas être à la merci de l'éducation du fils, et mais après l'école, ils se retrouvent dans des quartiers pendant que les parents sont déjà dans leurs différentes occupations, et ils ont là en face des éducations qu'ils mélangent, celle de l'école et celle de la rue. Et d'une façon particulière, il y a maintenant ces enfants-là qui ne fréquentent pas et qui se retrouvent dans la zone parce qu'ils sont appelés, déplacés, ils ont fui des zones en proie à l'insécurité et ils sont là. Et pendant ces temps, il n'y a pas une politique spécifique pour l'encadrement de ces enfants-là. De manière sommaire, les enfants sont vraiment à la merci. Et les parents abandonnent les enfants, et les gouvernements abandonnent les enfants. Et du coup, bon, personne ne donne leçon à l'autre.
Nous sommes dans une région où il y a plusieurs enfants qui sont déplacés de guerre. Ces enfants ont-ils droit d'avoir une identité aussi comme les autres?
Mais impérativement. En fait, c'est à tort même que même les adultes ne sont pas identifiés en RDC. Bon, peut-être nous autres, nous avons la grâce d'avoir les passeports, mais aujourd'hui, le pays a une réelle difficulté d'identifier ou alors d'inventorier combien de citoyens composent la RDC. Pour ne parler que de ce travail que la CENI a réalisé, on a parlé de l'identification des électeurs. Mais l'identification des électeurs, est-ce que, en fait, il n'y a que des électeurs qui composent la RDC? Non. En fait, la population est composée de plusieurs personnes et de différents âges. Parce que les mineurs, par exemple, n'ont pas voté. Et comme nous parlons des enfants, et justement, ça, le problème. Quand le gouvernement a un réel problème, ou se retrouve devant un défi d'identifier d'abord les adultes, je ne vois pas ce gouvernement-là prendre son temps et avoir un regard spécifique sur les enfants. Et c'est un problème. Et donc, on a de plus en plus cette difficulté en face. Mais néanmoins, il y a lieu que les parents reviennent sur une bonne pratique. Parce que, auprès du service de l'état civil, on peut quand même, après avoir mis au monde son enfant, on peut aller là-bas, c'est à la commune, généralement, vous allez vous identifier votre enfant pour obtenir ne serait-ce que cet acte de naissance. Ça ne demande pas forcément besoin qu'il y ait une politique mise en place. Du reste, ça c'est déjà une politique provisoire. Donc il y a encore beaucoup à faire, mais au moins parlant de ces droits d'identité, ou alors le droit de se faire identifier, c'est reconnu parce que la loi a déjà quand même donné cette possibilité d'aller identifier l'enfant dès lors qu'il est né dans les 90 jours qui courent. Et donc c'est parmi les droits que nous pouvons évoquer en interpellant les parents.
Et vous, comme activiste des droits de l'enfant, que faites-vous pour que ces enfants ne soient pas victimes de l'apatridie? Donc, tous ces enfants qui sont déplacés de guerre aujourd'hui, qui naissent un peu partout, dont les parents n'arrivent pas à les faire enregistrer à l'état civil dans le délai légal.
C'est un grand souci, évidemment, messieurs les journalistes. De plus en plus, ce genre d'activité ne se limite pas seulement aux sensibilisations. Du reste, nous faisons ça. Mais c'est au-delà, parce que il y a en face la réalité contextuelle qui vous impose une attitude de retarder certaines procédures. En retardant, la loi qui parle de 90 jours ou 3 mois, à partir par exemple de la naissance, et les contextes continuent à s'empirer, et les parents, peut-être que vous n'avez même pas la possibilité d'identifier ces enfants, ils aèrent ici et là, et paf, 3 mois viennent de s'écouler, et là il faut procéder à une autre procédure, permettez la tautologie. Ça veut dire là, ce n'est plus le service de l'état civil qui peut être compétent, et là, il faut maintenant une autre procédure au niveau du tribunal pour enfants, et pour obtenir des jugements, et tout ça. Et donc, c'est des réels problèmes, mais il faut des cadres peut-être de concertation jusqu'ici entre d'un côté les comités des déplacés, les organisations, nous autres qui intervenons dans la protection des enfants et d'une façon générale à la consolidation de la paix, ainsi que les services de l'État qui ont rôle de réguler certains secteurs. Là, on voit d'un côté d'abord les services directement des tutelles, mais de l'autre les services de sécurité et tout ça, parce que lorsque ça barde dans des zones en proie à la sécurité, là-bas, il n'y a pas des ONG directement. Là-bas, il n'y a pas peut-être forcément les responsables qui doivent prendre soin d'identifier des personnes ou des enfants qui se retrouveraient dans des circonstances dont nous avons évoqué si haut.
Parce que les enfants ont droit d'être protégés en temps de guerre, est-ce que les enfants de la région, comme nous parlons, des enfants déplacés, le sont-ils réellement?
Vous avez la réponse, j'ai aussi une partie de la réponse à ma manière. C'est dit, effectivement, c'est ça les fléaux. Les enfants semblent penser que tout celui qui habite dans la zone insécurisée n'a pas droit à la protection, c'est plutôt ceux qui sont dans des grandes agglomérations qui ont droit à cette protection. C'est un paradoxe qui existe et on ne peut pas refuser tout de suite parce que, voilà, nous on a l'opportunité de parler de ça. Ça veut dire que c'est des réels problèmes auxquels nos enfants font face. Mais ça semblait ne pas intéresser la crème intellectuelle, la classe politique, parce que qui du reste a la charge de mettre en place la politique de protection des enfants? A priori, je dirais, c'est vrai, ce sont les parents, mais lorsque les parents sont en crise de possibilités, et donc ça, c'est les gouvernements qui imposent une politique de protection des enfants. Parce qu'il y a des fois, les parents peuvent, par exemple, s'entraîner dans des actes qui s'apparentent à des violations des droits des enfants, et l'État, comme il a ses pouvoirs, il peut contraindre un parent à s'assumer dans ses responsabilités. Eh bien, il s'est fait que dans la politique de protection des enfants, dans des zones en proie à la sécurité, il n'y en a pas d'une manière spécifique. Ce sont les ONG qui prennent le dessus, et avec quelques initiatives, voilà, il y a la MONUSCO au travers sa section, et donc ce sont des initiatives outre que celles qui peuvent émaner du gouvernement comme tel, parce qu'entre autres piliers, ils ont aussi là où ils parlent des droits de l'homme, avec tout ce qu'il y a comme aspect humanitaire. Mais on se retrouve avec des ministères qui s'intéressent des affaires humanitaires, des affaires sociales, mais en dehors des zones où cette nécessité il y en a. Et donc c'est ça les paradoxes. Et c'est pourquoi, d'emblée, dans les contenus de ma réaction, vous allez y trouver une tendance de minimisation de cette question. Ça veut dire, d'une façon globale, et dans des discours, nous disons, voilà, on a l'attention sur la protection des enfants, mais quand vous allez dans les fonds, et les fonds, c'est les zones concernées, et c'est là qu'il y a nécessité, bien entendu, d'interroger, pourquoi pas les chefs des Nyumbakumi, qu'on appelle les chefs de base, et tout ça, sur les vrais problèmes auxquels les enfants font face. En ville, ça peut ne pas se sentir d'emblée, mais dans les territoires, dans les faubourgs, il y a des réels fléaux qui existent là-bas. Et les enfants, en les regardant une fois, vous avez de la peine. Et nous-mêmes, quand on effectue des missions d'itinérance, on a l'impression comme si la vie, elle est d'un rien rare dans les recoins de cette nation. Et évidemment, c'est ça, quoi. Donc, c'est un élément de la réponse à cette question que je peux apporter.
Comment réagissez-vous face à l'exploitation économique, mais aussi à l'exploitation sexuelle des enfants dans la région?
Le contexte, c'est bien celui-là qui impose ces exploitations économiques, justement, parce qu'il y a des familles qui prétendent que, voilà, les enfants, voilà, chacun doit aussi être utile afin que la famille survive. Aspect exploitation sexuelle, et là, on voit avec des maisons appelées communément KIG, hein, des maisons où on exploite les enfants, mais est-ce qu'on n'a pas des services de renseignement? Est-ce qu'on n'a pas des services, les chefs de base? Ces gens sont au courant, mais les phénomènes continuent. Ah, ça veut dire qu'il y a une légèreté dans ces secteurs qu'il faille relever au fait. Donc ça veut dire si une attention n'est pas accordée là-bas, le phénomène va continuer, mais du reste il faut passer à l'action. À l'action, ça veut dire lorsque nous prenons conscience, nous acteurs qui intervenons dans la protection des enfants, nous devons identifier chaque site reconnu comme tel et remonter la situation auprès des autorités pour des solutions. Parce que nous avons en face des autorités qui attendent des problèmes dans les bureaux. Et donc nous, on se fait la peine, on va vers les problèmes, on les identifie et on apporte par devers elles et à elles de voir est-ce qu'ils peuvent actionner. Mais l'expérience renseigne que toutes les fois que nous venons avec des JBCR auprès de ces autorités, bon, à certaines situations, ils répondent quand même. Mais est-ce que c'est comme ça que les choses peuvent marcher? Non. La réalité, c'est que l'initiative peut venir de ceux-là que nous appelons autorités de la ville et à un niveau, ils peuvent mettre en place des politiques pour identifier ces maisons potentiellement hébergeurs des mineurs pour les exploiter sexuellement. Il est possible, c'est question qu'une politique soit mise en place. Parce que les gens peuvent être là en train de regarder, bon, ils se disent, non, bon, ils sont en train de faire leur lucre à leur manière. Mais ça fâche les dispositions qui protègent les enfants. Parce que la réalité avec la protection des enfants ou la loi portant protection des enfants, c'est que les enfants, les actes qu'ils posent, c'est dans toute inconscience. Et lorsque l'enfant pose des actes dans toute inconscience, et vous, adultes, vous êtes là en train d'observer, vous êtes donc complice de ces faits. Vous êtes susceptible aux poursuites judiciaires.
Justement parce que tout le monde a l'obligation, je ne dis pas peu, il a l'obligation de protéger les enfants. Raison pour laquelle nous lançons un appel à toutes ces personnes qui assistent impuissamment à l'exploitation économique des enfants, à l'exploitation sexuelle des enfants, à mettre la main à la pâte et de nous en tenir informés. Parce que si elles ont la difficulté d'annoncer ou de dénoncer ou de voir les autorités, eh bien nous pouvons les faire.
Pensez-vous que tous ces enfants ont droit à une justice adaptée à leur âge?
Évidemment, nous avons pour preuve le tribunal pour enfants qui existe et rend des bonnes sentences. Donc à Béni, au moins, en tout cas parmi les juridictions qui sont actives et très rigoureuses, c'est les tribunaux pour enfants. Et donc, et comme il ne peut pas aussi se retrouver partout à la fois, c'est pourquoi, bon, voilà, il ne sait pas résoudre tous les problèmes. C'est pourquoi nous avons lancé, avant cette question, un appel à toute personne qui serait en possession d'un fait, qui entraverait les droits des enfants, de les dénoncer, soit directement au devant du tribunal pour enfants, soit via les organisations qui interviennent dans la protection des enfants, et on pourra canaliser ça selon les droits. Et donc il est possible, et c'est question de dénoncer.
C'est quel conseil donnez-vous aux parents par rapport au droit à l'éducation des enfants?
Bien sûr, je suis parent, je peux bien vouloir assurer ce droit à mon enfant, mais je suis borné, vous voyez un peu. C'est des choses qui se complètent dans la réalité, mais il y en a aussi une autre partie qui refuse carrément d'amener leurs enfants à l'école. Mais à toutes ces personnes, il faut d'abord se rappeler que l'école, c'est une opportunité pour ouvrir ou élargir la capacité d'un enfant à voir autrement les choses. Peut-être que vous n'avez pas eu la chance de fréquenter. C'est un droit de l'enfant, ça reste un droit. Mais pourquoi est-ce qu'on ne sait pas contraindre un parent à amener forcément son enfant à l'école? Parce que justement, il peut brandir des raisons économiques pour dire, voilà, je suis moi-même, d'abord, c'est à peine que je trouve à mettre sous la dent. Vous pensez que ce sont les $100, les $60 que j'aurai pour amener l'enfant là-bas? Non. Raison pour laquelle le gouvernement a compris cela, a instauré un système de gratuité. Aujourd'hui, il est supposé que les parents n'ont plus des alibis à présenter pour des enfants éligibles à cette gratuité. Et donc voilà, donc c'est un droit. Et donc il revient maintenant à celui qui a donné l'opportunité d'instaurer une politique de traquer tous ces parents qui veulent ruiner l'avenir de leurs enfants. Parce que si nous, on n'avait pas fréquenté, en tout cas, honnêtement, et vous, journaliste, et moi, Justin, peut-être qu'on n'aurait pas toutes ces réflexions, tous ces nerfs qui se concentrent pour articuler les mots qui soient en harmonie avec ce que nous sommes en train de parler. Donc voilà un peu, c'est un droit, et l'État est en train d'accompagner ça, et nous pouvons quand même dire que ces côtés-là, ça évolue, même s'il y a beaucoup à reprocher, mais les débuts de 10 kilomètres, c'est un pas. L'État a fait les premiers pas. Ok, mettons-les devant un fait accompli. Mais allons-y d'abord avec cette gratuité, avec plusieurs facettes des défis.
Justin Matete, merci.
Je vous en prie.
Que vive le 20 novembre, en ce jour où le monde célèbre la Journée internationale des droits de l'enfant. Mon souhait est que tous les enfants de la RDC vivent pleinement leurs droits et qu'aucun enfant ne se retrouve dans les mines, victime de la guerre.
Chers auditeurs de la fréquence de la paix, merci de votre attention soutenue à ce magazine de jeunes et plus jeunes qui célèbre en ce jour la Journée internationale des droits de l'enfant. Place à notre deuxième et dernier invité. Lui, c'est Joël Kabuya, encadreur principal du Parlement d'enfants dans la région de Béni. Il affirme qu'il y a encore un gap dans l'éducation, la protection et la promotion de l'enfant dans la région de Béni. À la base, l'insécurité récurrente pousse certaines familles au déplacement et c'est l'enfant qui est beaucoup plus victime, d'où ses droits sont piétinés. Joël Kabuya demande ici au gouvernement de bien jouer son rôle. Il le dit dans cet entretien avec Guylaine Kassassia.
Monsieur Joël Kabuya, bonjour.
Bonjour, cher journaliste.
Vous êtes l'encadreur principal du Parlement d'enfants à Béni. Quel état des lieux faites-vous du respect des droits de l'enfant dans la région de Béni, Boutembo et Lubero?
S'agissant de la question de l'éducation ou l'état général des enfants dans la province du Nord Kivu, dont nous sommes répondants et responsables de cette organisation représentant les enfants, nous commencerons par saluer ces enfants qui... Au-delà de plusieurs atrocités ou de circonstances de notre région, ils n'abandonnent pas. Vous savez, la ville de Beni, Butembo, le Grand Nord, Kivu en particulier, a connu Ebola, massacre, coronavirus, ce qui a eu à perturber dans ces 10 années l'évolution des enfants, non seulement les enfants, les dames et aussi la jeunesse. La plupart de la communauté a été traumatisée et comme le plus vulnérable reste maintenant les femmes et enfants, nous ne cesserions de le dire, c'est un peu avec honneur que nous pouvons saluer cette résilience des parents et aussi des enfants. Quant à ce qui est de la situation des enfants, je veux parler un peu de plusieurs domaines. Quant à ce qui est de la protection générale des enfants, à l'occasion de ce 20 novembre où nous commémorons une grande thématique qui parle de l'écoute pour bien sauvegarder l'avenir de ces enfants, eh bien cette protection, elle a un défi qui doit être relevé. C'est pour cela que je veux parler de cet état des lieux. Il y a encore un gap par rapport à la protection, à l'éducation et pourquoi pas dans la promotion des enfants dans notre communauté.
Et alors, comme vous êtes en train de le dire, s'agissant alors de l'éducation et de la protection, peut-on vraiment dire que l'enfant de notre région jouit pleinement de ses droits qui lui sont reconnus dans ces domaines?
Le droit à l'éducation, c'est garanti par la loi, mais vous seriez étonné avec moi de vous dire que, d'une part, lorsque nous faisons de terrain, ce n'est pas seulement au niveau de la ville, mais aussi en territoire, eh bien, il y a plusieurs écoles dans l'est de la République démocratique du Congo qui ont connu encore aussi des sérieux problèmes, des sérieuses difficultés où les enfants n'ont pas étudié. L'année qui a commencé, jusque-là, il y a des difficultés. Par rapport aux occupations des endroits par les groupes armés et qui ne permettent pas à ce que les enfants se sentent dans leur droit à l'éducation. Pour dire, non seulement ces enfants qui ont été dans leur contrée, mais il y a ceux qui ont viré vers les contrées hautes. C'est-à-dire, ils sont des enfants qui sont maintenant déplacés. Et les contraintes ne permettent pas à ce que, même si la gratuité soit garantie dans les écoles primaires, le défi reste maintenant les emplacements. Par exemple, les salles de classe, les équipements de salles de classe. Et quand je parle de l'emplacement, là, j'aimerais seulement parler des kits nécessaires pour une bonne éducation. Parce que nous grandissons, nous tous, sachant que le critère maximum dans une salle de classe, on devrait avoir 45 enfants avec un enseignant. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pléthoresque dans le sens que parvenir à trouver 80 ou 90 enfants dans une salle de classe, c'est devenu normal. C'est sur cette éducation qui doit être gratuite et promise, mais les grands défis, imaginez un enseignant, d'abord dans ces défis, qui doit encadrer ses 80 à 90 enfants, avec quelles compétences? Vous comprenez que même s'il est fort, cet enseignant, même s'il est à niveau, même s'il est comment? 90 enfants.
Des enfants traumatisés.
Des enfants traumatisés par des circonstances de guerre. C'est-à-dire, cet enseignant voudra d'abord faire, et chaque parent n'est sans ignorer que d'abord 3 enfants à la maison lors des vacances, c'est vraiment compliqué parce que le seul bruit qui empêche aux parents de continuer avec leurs travaux, c'est le silence des enfants. Parce que pendant les périodes des vacances, c'est aberrant de rester à la maison avec les enfants. Maintenant, imaginez lors de la rentrée, c'est un enseignant avec 90 enfants, ce qui n'est pas normal. Et de deux, l'éducation du jour au jour, il y a cette difficulté par rapport au changement des programmes. Vous comprenez que cet enseignant doit se mettre en jour, les enfants doivent maintenant s'actualiser. On se pose une question d'adaptation. Et aussi dans les ludiques, je rentre peu de temps dans les ludiques à l'école, beaucoup de temps dans cette nouvelle matière, peut-être incompréhensible aussi par celui qui va transmettre. Donc c'est un grand danger par rapport à l'éducation et que nous ne devions pas ignorer parce que c'est un défi. Non seulement une remise à niveau des enseignants, mais aussi la façon d'accompagner les écoles, dans la façon de laisser que les enfants soient dans les nombres permettant que cet enseignant puisse transmettre la bonne éducation.
Et de la protection?
Au niveau de la protection, cher journaliste, c'est un peu transversal dans ces côtés. Vous savez, la protection commence par l'enfant lui-même. Mais, et encore, en vertu de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfance, garantit à ce que cet enfant en soi n'a pas encore de consentement. Pour dire qu'on met en exergue cet enfant qui est encore vulnérable. pour ne pas être plus vulnérabilisé. C'est-à-dire, l'entourage devra protéger cet enfant, non seulement les parents, mais aussi la communauté. Mais il se pose un sérieux problème. Je vais vous parler de notre contexte actuel. Nous sommes en train de quitter la période sauterellesque, où maintenant les enfants, c'est comme si on ne peut pas comprendre. Un parent, imaginez, je parle simple du côté parent, un parent qui vit de 250 francs par ménage. C'est-à-dire ses parents doivent aller chercher à manger pour les enfants. C'est-à-dire il ne saura pas où est cet enfant le matin. Il va se contenter de rentrer le soir pour comprendre quel enfant doit manger. Parce que c'est le droit aussi à l'alimentation. C'est que le parent est contraint d'accompagner les droits à l'éducation, de protéger son enfant, mais aussi à rassurer que cet enfant soit bien nourri. Mais malheureusement, cet enfant va aussi voir, vous allez comprendre que dans ce que je peux vous dire aussi dans l'entrée parenthèse, l'exploitation économique des enfants, il y a de cela 3 ans, le Parlement et le Comité d'enfants, nous avons commencé une sensibilisation avec le Bureau des Affaires Sociales de Béni. On voyait les enfants qui transportaient des marchandises, on se disait, est-ce qu'il faut acheter ces marchandises? On accompagnait même les enfants jusqu'à leur ménage. Mais par surprise, la plupart des enfants, je vous assure, la plupart des enfants n'avaient pas de parents. C'est-à-dire, l'encadrement de ces enfants, dont 4 que je peux vous citer, ils portaient plus ou moins 6 kilos de bananes. Et un enfant de 5 ans, 6 ans. Et il revenait de plus ou moins 7 kilomètres du centre-ville. Et vous allez dans 7 kilomètres du centre-ville, en y arrivant, vous le trouvez, c'est dans une petite maisonnette, et c'est la grand-mère qui reste parfois de côté avec l'enfant. Et l'enfant de 6 ans se dit, donc si je devenais main-d'œuvre pour ma grand-mère, je vais ramener aussi un peu d'argent et grand-mère pourra nous acheter des légumes. Imaginez que cette résilience, la femme commence à développer la façon économique de venir en appui à sa famille, non seulement parler de l'exploitation, mais on se disait, est-ce qu'il faudrait qu'on parle maintenant de l'encadrement ou de prise en charge des enfants à ces moments-là? Non, l'apprentissage des métiers, on ne sait pas. Mais on se dit, la grand-mère à la questionna, elle vous dit, sa maman était tombée enceinte et elle est déjà partie dans des carrières. On est venu jeter le bébé. Imaginez ces grands dangers qui nous poussent à dire que les contraintes de protection est transversale. C'est-à-dire, c'est aussi une façon pour nous d'interpeller les gouvernements congolais au travers le bureau urbain, le maire de la ville. Lorsqu'il y a par exemple cette période sauterellesque, on en a marre, c'est une période. On ne pourrait pas être en train d'en parler chaque fois. Il y a des comités, des gens qui font le piège. La ville de Béni a 4 communes et 30 quartiers. C'est-à-dire, imaginez si dans chaque quartier, on avait déjà 10 pièges. 10 pièges fois 30, on est à 300 pièges, fois combien d'enfants qui seront de main-d'œuvre? Directement, il y aura une exploitation économique des enfants parce que le main-d'œuvre des enfants, c'est un danger. L'autorité urbaine devra enregistrer ces personnes qui ont de pièges, qui permettra maintenant à ce que, s'ils utilisent les enfants, qu'ils soient poursuivis.
Est-ce qu'il y a des incidents que vous avez enregistrés jusque-là?
Jusque-là, cette année, on n'en a pas encore jusque-là enregistré. Mais quand même, c'est l'alerte. Et il y a des enfants qui passaient nuit à la Belle Étoile.
Alors, Joël Kavouya, avez-vous des appréhensions concernant le respect des droits de l'enfant? Si oui, lesquels?
Effectivement, nous ne pouvons pas quand même vomir sur les actions humanitaires, mais aussi l'acceptance de l'accompagnement de l'autorité de l'État. Pour dire vrai, il y a déjà des meilleures thématiques d'accompagnement dans la protection. Pour dire, il y a un changement depuis un certain moment, des sensibilisations des humanitaires, des sensibilisations des acteurs politiques. Comme je peux vous dire, nous revenons fraîchement dans le processus électoral où on a quand même un peu vu un changement dans l'utilisation des enfants dans le processus électoral. C'est-à-dire, cette sensibilisation commençait un peu à toucher certaines personnes qui devraient décider d'utiliser les enfants. Et ils ont quand même été alertés. Et ils ont essayé, mais quand même il y a toujours eu des déviations. Vous savez, l'homme est l'homme et il y a toujours des problèmes quant à ce qui est de la réussite. Certaines personnes disent le coût importe peu, mais il faudrait juste atteindre l'objectif. Mais on s'est dit aussi, il y a sûrement des avancées, mais vous connaissez les communautés où on s'est dit, si aujourd'hui on doit protéger l'enfant, on doit aussi s'actualiser. Comme la loi elle est dure, elle reste cette loi. Certaines personnes font semblant de ne pas connaître cette loi. Alors la vulgarisation de certaines lois, comme la loi portant protection de l'enfance, comme aussi la loi du numérique, cette loi étant si nouvellissime, elle serait très importante de la vulgariser. Non seulement comme on a vulgarisé la résolution 1325 ou la convention relative des droits de l'enfant, mais aussi vulgariser la loi du numérique, parce que ces derniers temps, c'est toutes les familles qui disent non, on va laisser aux enfants les téléphones, mais l'utilisation de ces portables devient aussi un autre danger.
Joël Kavouya, pour clore notre entretien, comment vous assurez-vous, en tant que structure de défense des droits de l'enfant, que ces droits sont connus et respectés par tous?
Comme je le disais tantôt, l'homme reste homme, c'est-à-dire l'homme doit être sensibilisé. Voilà pourquoi nous disons toujours en communication et protection humanitaire, on doit sensibiliser sans vexer. C'est-à-dire le do no harm, c'est-à-dire on attend, on se dit en nous, sensibiliser cette communauté, peu importe les droits connus. Mais les connaître ne suffit pas. Mais le mettre en pratique, c'est le très important. Et tant que parlement et comité d'enfants au niveau de chez nous, je ne voudrais pas passer sans dire tout ce qui s'est passé. À un certain moment, nous avons commencé à sensibiliser les écoles contre les violences faites en milieu scolaire. Et lorsqu'on a constitué des données où on devrait mener un plaidoyer, même au niveau provincial, le 13 novembre, notre bureau a été attaqué après la mort de Monta et on a perdu presque tous les éléments. On a brûlé les effets et tout ce qui était dans notre bureau, mais ça ne nous dit pas qu'on doit arrêter. Même si le bureau n'est pas encore construit, on est en train de relancer les activités de sensibilisation dans les écoles où le Parlement et comité d'enfants, depuis la rentrée scolaire, nous sensibilisons dans les écoles en vulgarisant la loi portant protection de l'enfance, celle 09/001 10 janvier portant protection de l'enfance.
Joël Kavouya, nous vous remercions.
C'est à nous de vous remercier, chers journalistes.
C'est par ici que s'achève ce numéro du magazine Bana Okapi du jour. Nous avons parlé des avancées dans le respect des droits de l'enfant, des abus qui se font encore aujourd'hui, mais aussi des défis à relever pour que chaque enfant jouisse pleinement de ses droits en RDC. Ce magazine est à réécouter sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net ou sur la page Facebook Bana Okapi. Au revoir.